biens durables et objets de valeur. Précisons enfin que nous n'avons pas pris en compte dans l'épargne privée, ni par conséquent dans les patrimoines privés, les achats des ménages correspondant aux biens durables, mobilier, équipements domestiques, voitures, etc. Nous suivons en cela les normes internationales de comptabilité nationale qui traitent les biens durables des ménages comme une consommation immédiate. Les mêmes biens achetés par les entreprises sont en revanche considérés comme des investissements avec une forte dépréciation annuelle. Cela n'a cependant qu'une importance limitée pour notre objet, car les biens durables ont toujours représenté une masse relativement faible par comparaison au total des patrimoines, masse qui n'a en outre guère varié dans le temps. Dans tous les pays riches, les estimations disponibles indiquent que la valeur totale des biens durables des ménages est généralement comprise entre 30 et 50% du revenu national sur l'ensemble de la période 1970-2010, sans tendance apparente. Autrement dit, chacun possède en moyenne entre un tiers et une demi-année de revenus en meubles, réfrigérateurs, voitures, etc., soit entre 10 000 et 15 000 euros par habitant, pour un revenu national par habitant de l'ordre de 30 000 euros au début des années 2010. Ce n'est pas rien, et nous verrons dans la troisième partie de ce livre que pour une part importante de la population, cela constitue même l'essentiel de la richesse. Mais par comparaison aux 5-6 années de revenu national que représentent les patrimoines privés dans leur ensemble, hors bien durable, soit environ 150 200 000 euros par habitant, dont environ la moitié pour l'immobilier et la moitié pour les actifs financiers nets, dépôts bancaires, actions, obligations, placements divers, etc., nets de dette. Et les biens professionnels, cela ne représente qu'un petit complément. Concrètement, si l'on incluait les biens durables dans les patrimoines privés, cela aurait simplement pour effet de relever d'environ 30-50% du revenu national le niveau des courbes du capital privé dans les pays riches, représenté sur le graphique 5.3, sans affecter sensiblement l'évolution générale. Notons au passage qu'en dehors des biens immobiliers et professionnels, les seuls actifs non financiers pris en compte dans les normes internationales de comptabilité nationale, et que nous avons suivis afin d'assurer la cohérence des comparaisons de patrimoine privé et national entre pays, sont les « biens de valeur », c'est-à-dire les objets et métaux précieux, or, argent, bijoux, œuvres d'art, etc., détenus par les ménages comme pure réserve de valeur, ou pour leur valeur esthétique, et qui, en principe, ne se détériorent pas ou très peu au cours du temps. Ces biens de valeur sont cependant estimés à des valeurs sensiblement plus faibles que les biens durables, entre 5% et 10% du revenu national actuellement suivant les pays, soit entre 1 500 euros et 3 000 euros par habitant pour un revenu national moyen de 30 000 euros. Et leur impact sur le total des patrimoines privés est donc relativement secondaire, y compris après les hausses récentes du cours de l'or. Il est intéressant de préciser que d'après les estimations historiques dont nous disposons, ces ordres de grandeur ne semblent pas avoir beaucoup changé sur longue période. Pour les biens durables, les estimations disponibles sont généralement de l'ordre de 30-50% du revenu national pour le 19e siècle comme pour le 20e siècle. Il en va de même si l'on examine l'estimation de la fortune nationale du Royaume-Uni autour de 1700 réalisée par Gregory King. La valeur totale des meubles, assiettes, etc. est, d'après King, équivalente à environ 30% du revenu national. Pour ce qui concerne les biens de valeur et objets précieux, on semble observer une tendance à la baisse sur longue période, de 10-15% du revenu national à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à 5-10% aujourd'hui. D'après Gregory King, leur valeur totale en incluant la monnaie métallique atteignait 25-30% du revenu national autour de 1700. Il s'agit dans tous les cas de montants relativement limités par comparaison au total des patrimoines accumulés dans le royaume, environ 7 années de revenu national, principalement sous forme de terres agricoles, maisons d'habitation et autres biens capitaux, magasins, fabriques, entrepôts, cheptels, bateaux, etc. Ce dont King ne manque d'ailleurs pas de se réjouir et de s'émerveiller. Le capital privé exprimé en années de revenus disponibles. Il faut également souligner que le rapport capital-revenu atteindrait des niveaux encore plus élevés, sans doute les plus hauts niveaux historiques jamais observés, dans les pays riches des années 2000-2010, si l'on exprimait le total des patrimoines privés en années de revenus disponibles, et non pas de revenus nationaux, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Cette question en apparence technique mérite quelques éclaircissements. Le revenu disponible des ménages, ou plus simplement revenu disponible, mesure, comme son nom l'indique, le revenu monétaire dont disposent directement les ménages dans un pays donné. Par définition, pour passer du revenu national au revenu disponible, il faut déduire tous les impôts, taxes et prélèvements et ajouter les transferts monétaires. Pension de retraite, allocation chômage, allocation familiale, minima sociaux, etc. Jusqu'au début du XXe siècle, l'État et les diverses administrations publiques jouent un rôle limité dans la vie économique et sociale. Le total des prélèvements est de l'ordre de 10% du revenu national, ce qui finance pour l'essentiel les grandes fonctions régaliennes, police, armée, justice, route, etc. Si bien que le revenu disponible représente généralement autour de 90% du revenu national. Ce rôle s'est considérablement accru au cours du XXe siècle, si bien que le revenu disponible ne représente plus aujourd'hui qu'environ 70-80% du revenu national dans les différents pays riches. La conséquence mécanique est que si l'on exprime le total des patrimoines privés en années de revenus disponibles et non de revenus nationaux, comme cela se pratique parfois, alors on obtient des niveaux nettement plus élevés. Par exemple, dans les années 2000-2010, le capital privé représente approximativement entre 4 et 7 années de revenus nationaux dans les pays riches, c'est-à-dire entre 5 et 9 années de revenus disponibles, voire graphique 5.4. Ces deux façons de mesurer le rapport entre capital et revenu peuvent se justifier, suivant le point de vue que l'on souhaite adopter sur la question. Le rapport exprimé en années de revenus disponibles met l'accent sur les réalités strictement monétaires et permet d'insister sur l'ampleur atteinte aujourd'hui par les patrimoines, par comparaison aux revenus annuels dont disposent directement les ménages, par exemple pour épargner. Cela correspond d'une certaine façon à la réalité concrète vécue directement par les ménages sur leur compte en banque, et il est important d'avoir ces ordres de grandeur présents à l'esprit. Il faut cependant souligner que l'écart entre revenu disponible et revenu national mesure par définition la valeur des services publics dont bénéficient gratuitement les ménages, et notamment des services d'éducation et de santé financés directement par la puissance publique. Or, ces transferts en nature ont autant de valeur que les transferts monétaires pris en compte dans le revenu disponible. Ils évitent aux personnes concernées d'avoir à débourser des sommes comparables, ou parfois nettement plus élevées, auprès de producteurs privés de services d'éducation et de santé. Les ignorer risquerait de biaiser certaines évolutions ou comparaisons entre pays. C'est pourquoi il nous semble préférable d'exprimer les patrimoines en années de revenu national. Cela revient à adopter un point de vue économique et non strictement monétaire sur la notion de revenu. Dans le cadre de ce livre, lorsque nous nous référons au rapport capital-revenu, sans autre précision, nous faisons toujours référence au rapport entre le stock de capital et le flux de revenus national. La question des fondations et des autres détenteurs. Pour être tout à fait complet, il est également important d'indiquer que nous avons inclus dans les patrimoines privés non seulement les actifs et passifs détenus par les individus privés, les ménages en comptabilité nationale, mais également ceux détenus par les fondations et autres associations sans but lucratif, les institutions sans but lucratif en comptabilité nationale. Précisons que seules les fondations et associations financées principalement par les dons des individus privés ou par les revenus de leurs propriétés entrent dans cette catégorie. Celles qui vivent principalement de subventions publiques sont classées dans le secteur des administrations publiques, et celles qui dépendent en premier lieu du produit de leur vente sont classées dans le secteur des sociétés. En pratique, toutes ces frontières sont évidemment mouvantes et poreuses. Il y a quelque chose d'arbitraire dans le fait d'englober le patrimoine des fondations dans le total des patrimoines privés, plutôt par exemple que dans le patrimoine public, ou bien de le considérer comme une catégorie à part. De fait, il s'agit bien d'une forme originale de propriété, intermédiaire entre la propriété purement privée et la propriété proprement publique. En pratique, que l'on considère les biens possédés par les églises à travers les siècles, ou bien ceux détenus aujourd'hui par Médecins sans frontières, ou bien par la Bill and Melinda Gates Foundation, on voit bien que l'on a affaire à une grande diversité de personnes morales poursuivant des objectifs spécifiques. Il faut toutefois souligner que l'enjeu est relativement limité, dans la mesure où ce que possèdent ces personnes morales est généralement assez faible par comparaison à ce que les personnes physiques conservent pour elles-mêmes. Si l'on examine les estimations disponibles pour les différents pays riches au cours de la période 1970-2010, on constate que la part des fondations et autres associations non lucratives dans le total des patrimoines privés est toujours inférieure à 10% et généralement inférieure à 5%, avec toutefois des variations intéressantes entre pays, à peine 1% en France, environ 3-4% au Japon et jusqu'à 6-7% du total des patrimoines privés aux États-Unis, sans tendance apparente. Les sources historiques disponibles indiquent que la valeur totale des biens de l'Église en France au XVIIIe siècle atteignait environ 7-8% du total des patrimoines privés, soit approximativement 50-60% du revenu national de l'époque. Ces biens ont été pour partie confisqués et vendus pendant la Révolution française afin d'apurer les dettes publiques léguées par l'Ancien Régime. Autrement dit, l'Église possédait sous l'Ancien Régime des biens plus importants encore, rapportés au total de son temps, que les prospères fondations américaines de ce début du XXIe siècle. Il est intéressant de noter que les deux niveaux sont toutefois relativement proches. Il s'agit là de positions patrimoniales tout à fait substantielles, surtout si on les compare au maigre patrimoine positif et parfois négatif détenu par la puissance publique aux différentes époques. Mais par comparaison au patrimoine privé, cela reste relativement modeste. En particulier, le fait d'inclure ou non les fondations avec les ménages n'affecte guère l'évolution générale du rapport entre capital privé et revenu national sur longue période. Cette inclusion se justifie en outre par le fait que la frontière n'est souvent pas facile à tracer entre d'une part les diverses structures juridiques, fondations, trust funds, etc., utilisées actuellement par les personnes fortunées pour gérer leurs actifs et promouvoir leurs intérêts privés, et qui en principe sont directement réintégrées dans le secteur des personnes par les comptes nationaux, à supposer qu'elles soient repérées comme telles. Et d'autre part, les fondations et associations réputées d'intérêt public. Nous reviendrons sur cette question délicate dans la troisième partie de ce livre, quand nous étudierons la dynamique de l'inégalité mondiale des patrimoines, et en particulier des très hauts patrimoines au XXIe siècle. La privatisation du patrimoine dans les pays riches. La très forte hausse des patrimoines privés observée dans les pays riches entre 1970 et 2010, notamment en Europe et au Japon, s'explique à titre principal par le ralentissement de la croissance et le maintien d'une épargne élevée au travers de la loi bêta égale S sur G. Mais si ce phénomène de retour du capital privé a pris une telle ampleur, c'est parce que ce mécanisme principal a été amplifié par deux effets complémentaires. D'une part, un mouvement de privatisation et de transfert graduel de la richesse publique vers la richesse privée, et d'autre part, un phénomène de rattrapage de long terme du prix des actifs. Commençons par la privatisation. Nous avons déjà noté dans le chapitre précédent la forte chute de la part du capital public dans le capital national au cours des dernières décennies, notamment en France et en Allemagne, où le patrimoine public net a représenté jusqu'à un quart, voire un tiers du patrimoine national dans les années 1950-1970, et en représente aujourd'hui à peine quelques pourcents. Les actifs publics permettent tout juste d'équilibrer les dettes. Il s'agit en réalité d'une évolution très générale qui concerne l'ensemble des pays riches. Dans les 8 principales économies développées de la planète, on observe entre 1970 et 2010 une diminution graduelle du rapport entre capital public et revenu national, parallèlement à la hausse du rapport entre capital privé et revenu national. Voir graphique 5.5. Autrement dit, le retour des patrimoines privés reflète pour partie un mouvement de privatisation du patrimoine national. Certes, la hausse du capital privé a été dans tous les pays nettement supérieure à la baisse du capital public, si bien que le capital national, mesuré en années de revenu national, a bel et bien progressé. Mais il a progressé moins fortement que le capital privé, compte tenu de ce mouvement de privatisation. Le cas de l'Italie est particulièrement clair. Le patrimoine public net était légèrement positif dans les années 1970, puis est devenu nettement négatif à partir des années 1980-1990, à la suite de l'accumulation d'énormes déficits publics. Au total, entre 1970 et 2010, la richesse publique a diminué de l'équivalent de près d'une année de revenu national. Dans le même temps, les patrimoines privés sont passés d'à peine 2 années et demie de revenu national en 1970 à près de 7 années en 2010, soit une progression de l'ordre de 4 années et demie. Autrement dit, la baisse du patrimoine public représente entre 1/5 et 1/4 de la hausse des patrimoines privés, ce qui n'est pas négligeable. Le patrimoine national italien a certes fortement progressé, passant d'environ 2 années et demie de revenu national en 1970 à environ 6 années en 2010, mais moins fortement que le patrimoine privé, dont la croissance exceptionnelle est en partie factice, puisqu'elle correspond pour près de 1/4 à une dette croissante d'une partie de l'Italie vis-à-vis d'une autre partie du pays. Au lieu de payer des impôts pour équilibrer les budgets publics, les Italiens, ou tout du moins ceux qui en ont les moyens, ont prêté de l'argent au gouvernement en achetant des bons du trésor ou des actifs publics, ce qui leur a permis d'accroître leur patrimoine privé sans pour autant accroître le patrimoine national. De fait, on constate qu'en dépit d'une très forte épargne privée, environ 15% du revenu national, l'épargne nationale a été inférieure à 10% du revenu national en Italie au cours de la période 1970-2010. Autrement dit, plus du tiers de l'épargne privée a été absorbée par les déficits publics. On retrouve ce schéma dans tous les pays riches, mais généralement de façon beaucoup moins extrême qu'en Italie. Dans la plupart des pays, l'épargne publique a été négative, ce qui signifie que l'investissement public a été inférieur au déficit public, c'est-à-dire que la puissance publique a moins investi qu'elle n'a emprunté, ou encore que ses emprunts ont financé les dépenses courantes. En France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, les déficits publics ont dépassé l'investissement public d'environ 2-3% du revenu national en moyenne sur la période 1970-2010 et non pas de plus de 6% comme en Italie, voire tableau 5.4. L'investissement public net est typiquement assez faible, généralement autour de 0,5%-1% du revenu national, dont 1,5%-2% pour l'investissement public brut et 0,5%-1% pour la dépréciation du capital public. Si bien que l'épargne publique négative n'est souvent pas très éloignée du déficit public, avec toutefois des exceptions. L'investissement public est plus fort au Japon, d'où une épargne publique légèrement positive, en dépit de déficits publics significatifs. Au final, dans tous les pays riches, la désépargne publique et la baisse de patrimoine public qui en découle représentent une part significative de l'accroissement des patrimoines privés, entre 1/10 et 1/4 suivant les pays. Ce n'est pas l'explication principale, mais ce n'est pas négligeable pour autant. En outre, il est possible que les estimations disponibles sous-évaluent quelque peu la valeur des actifs publics dans les années 1970, notamment au Royaume-Uni, peut-être aussi en Italie et en France, et par conséquent, nous conduisent à sous-estimer l'ampleur des transferts entre richesses publiques et richesses privées. Cela permettrait en particulier d'expliquer pourquoi les patrimoines privés britanniques ont si fortement progressé au cours de la période 1970-2010, en dépit d'une épargne privée nettement insuffisante, notamment pendant les vagues de privatisation d'entreprises publiques des années 1980-1990, privatisations qui se sont souvent faites à des prix notoirement bas, ce qui garantissait d'ailleurs la popularité de l'opération auprès des acheteurs. Il est important de préciser que ces mouvements de transfert de patrimoine du secteur public vers le secteur privé ne se sont pas seulement déroulés dans les pays riches depuis les années 1970, loin s'en faut. On retrouve cette évolution générale sur tous les continents. À l'échelle mondiale, l'opération de privatisation la plus massive des dernières décennies, et d'ailleurs de toute l'histoire du capital, concerne évidemment les pays de l'ex-bloc soviétique. Les estimations dont nous disposons, fort imparfaite, indique que les patrimoines privés en Russie et dans les pays de l'ex-Europe de l'Est se situent à la fin des années 2000 et au début des années 2010, autour de 4 années de revenu national, et que le patrimoine public net est extrêmement faible, de même que dans les pays riches. Les estimations disponibles pour les années 1970-1980, avant la chute du mur et l'effondrement des régimes communistes, sont encore plus imparfaites. Mais tout indique que la répartition était rigoureusement inverse. Les patrimoines privés se réduisaient à très peu de choses, quelques lopins de terre individuels, voire une partie des logements dans les pays communistes les moins fermés à la propriété privée, mais moins d'une année de revenu national dans tous les cas, et le capital public représentait la totalité du capital industriel et la plus grande part du capital national, soit au total entre 3 et 4 années de revenu national en première approximation. Autrement dit, le niveau du capital national n'a en première approximation pas changé. Simplement, sa répartition entre capital public et privé s'est totalement inversée. Pour résumer, la très forte croissance des patrimoines privés russes et est-européens entre la fin des années 1980 et les années 1990-2000, qui dans certains cas individuels a pris la forme d'enrichissement spectaculairement rapide, on pense notamment aux oligarques russes, n'a évidemment rien à voir avec l'épargne et la loi dynamique bêta égale S sur G. Il s'agit d'un transfert pur et simple de la propriété du capital de la puissance publique vers les individus privés. Le mouvement de privatisation du patrimoine national observé dans les pays développés depuis les années 1970-1980 peut être considéré comme une forme très atténuée de ce processus extrême.